Radio Classique.
Si le charisme devait trouver un champion, si le rayonnement devait s'incarner dans une personne, je pense qu'il s'agirait du plus célèbre souverain de l'histoire de France, ce roi qui a régné 72 ans, qui est devenu pour tout le monde Louis le Grand et qui portait le titre de Louis XIV.
Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Kersanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. whoz.com.
Bonjour Gérald Kersanti.
Bonjour Franck.
Ça fait plaisir de se retrouver pour parler d'un personnage comme celui-là.
Alors là, c'est le personnage. Marqué dans son enfance, comme tu le sais, par la Fronde, nous verrons que Louis XIV deviendra le monarque référence par excellence, comme Alexandre le Grand en son temps. Il est le souverain que l'on veut absolument copier. À ses côtés, nous découvrirons ensemble l'importance de plusieurs personnes déterminantes dans sa vie, des hommes et des femmes qui l'ont accompagné. Le premier d'entre eux étant le grand Colbert dont on va parler, sans qui rien n'aurait vraiment été possible. On l'aura compris, Franck, Louis XIV fut un monarque exceptionnel.
Si on devait trouver le leader des leaders, en quelque sorte, ce serait Louis XIV.
Il en ferait partie. Il serait probablement un des trois personnages qui reviendrait sur le dessus de la pile.
Et pourtant, il n'aurait jamais dû naître, si j'ose dire, ce petit Louis Dieudonné qui va naître si longtemps après le mariage de ses parents. Hein. Louis XIII et Anne d'Autriche s'étaient mariés en 1615. Lui ne vient au monde qu'en 1638. Vous imaginez ça? 23 ans d'attente, on n'y croyait plus du tout. Et en plus, son père étant de santé très fragile, il va mourir en 1643, ce qui veut dire que ce gamin-là devient le roi à l'âge de 5 ans. Alors évidemment, il faut une régence, c'est sa mère, l'Espagnole Anne d'Autriche, personnalité fantastique et qui mériterait d'ailleurs un jour qu'on lui consacre une émission parce qu'elle est passionnante avec Mazarin, il constitue une sorte de couple régnant incroyable. C'est Anne d'Autriche qui va tenir le royaume à bout de bras pendant la difficile période, non pas de la Fronde, comme on disait autrefois, mais bien des frondes, car il y a plusieurs frondes, celle des princes, celle du Parlement. Cette période, en quelque sorte, révolutionnaire qui marquera à jamais ce jeune roi. Il attend la mort de son parrain et principal ministre, Mazarin, en 1661, pour devenir roi à part entière, Louis XIV. Et à partir de là, pendant plus d'un demi-siècle, pendant 54 ans, il va littéralement rayonner non seulement sur le royaume de France, qu'il a grandi, il constitue avec Vauban, ce qu'on appelle le précaré, mais rayonner sur l'ensemble de l'Europe dont il devient en quelque sorte le modèle. C'est l'époque de la monarchie absolue de droit divin, modèle politique français par excellence que Louis XIV incarne à la quintessence. Avec de grands ministres, nous parlerons tout à l'heure de Colbert, il faudrait parler de Louvois, parler d'un certain nombre des collaborateurs de Louis XIV. Il faudrait parler aussi de son épouse très effacée, la reine Marie-Thérèse, mais de ses maîtresses qui le sont nettement moins, Mademoiselle de la Vallière, Madame de Montespan, et puis surtout celle qui, en 1683, va devenir son épouse morganatique, Madame de Maintenon. Il y a une grande inflexion dans le règne de Louis XIV, elle se situe au milieu de la décennie 1680, avec en octobre 1685 la révocation de l'édit de Nantes. Ça, c'est le grand épisode, évidemment. Louis XIV revient sur les concessions qui avaient été faites par son grand-père Henri IV aux protestants. Il faut être désormais catholique pour vivre en France. Ça va être l'origine d'ailleurs d'une émigration considérable dans les couches très actives de la population, parmi celles qui donc étaient protestantes et qui vont aller grossir les manufactures de tout l'Est et de tout le Nord de l'Europe et même jusqu'en Russie. Louis XIV a conduit de nombreuses guerres. La guerre de succession d'Espagne, bien sûr, la guerre de Hollande qui sera son grand triomphe, et puis, lorsque l'Europe aura fini par se coaliser contre lui, la guerre de la Ligue d'Augsbourg dans les années 1690, et après l'acceptation du testament du roi d'Espagne Charles II, à partir de 1700, la célèbre et terrible guerre de succession d'Espagne. La première, c'était une guerre de succession qui s'appelait guerre de dévolution. Cette fois, c'est une guerre que Louis XIV mène contre l'Europe coalisée. Il accumule les défaites, il accumule aussi les deuils dans sa famille, puisque son fils, le grand dauphin en 1711, son petit-fils le duc de Bourgogne en 1712, et deux de ses petits-fils vont mourir, ce qui fait qu'il ne lui reste qu'un tout petit héritier. Il est tout jeune, il a 5 ans au moment de la mort du grand roi en 1715. C'est celui qui régnera sous le nom de Louis XV. Pourquoi est-ce que je dis néanmoins, malgré tout ça, le grand roi? Eh bien parce que par sa dignité, sa force, son rayonnement, sa stature, ce charisme absolument exceptionnel qui font de lui le plus célèbre des rois de France, Louis XIV a définitivement marqué la fonction, non seulement pour la France, mais d'une façon générale. J'ai coutume de dire qu'il y a 3 souverains qui ont épousé la fonction à la quintessence. La défunte reine Élisabeth II d'Angleterre, dont nous venons de célébrer les funérailles il y a quelque temps, l'empereur d'Autriche, François-Joseph, et puis, pendant 72 ans, ce roi Louis XIV, qui nous a tous marqués, Gérald, on peut le dire, hein, quand on était à l'école, c'était le roi Soleil, même si cette appellation est très tardive.
Oui, tout à fait, et il y a cette fameuse phrase que j'ai en tête depuis mon adolescence et mes premières lectures, « Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai ».
1761, c'est ce qu'il dit à Lyon et
absolument,
à Tellier.
Et c'est ce qu'il dit à ses ministres issus de la robe, qui finalement lui doivent tout. Parce que c'est un homme, c'est un souverain, qui entend gouverner seul à la mort de Mazarin, c'est ce qu'il veut faire. Alors, il est dans le contrôle, et il est même dans un contrôle extrêmement détaillé. Alors la question c'est pourquoi? Puisqu'on analyse le leadership de Louis XIV, pourquoi? Pourquoi? Bien parce que nous sommes le produit de notre passé. Et si cette phrase résonne avec de nombreux personnages, elle résonne encore plus avec Louis XIV. Oui. Pourquoi ? Parce que il y a ce que tu appelais les frondes, et en particulier cette nuit où il avait 10 ans, il monte dans un carrosse avec son frère, sa mère et le cardinal Mazarin pour fuir le Palais Royal et aller à Saint-Germain.
Car là, vraiment, la révolution est trop forte à Paris, ils ne peuvent
absolument,
plus tenir.
Ils ne peuvent plus rester, et c'est un traumatisme terrible. Et quand il est sacré quelques années plus tard, il prendra une résolution qui va jouer un rôle énorme dans sa façon de gouverner, tenir les nobles d'une main de fer.
Et, oui.
Et ça explique sa façon de gouverner, il veut tout contrôler, il va instaurer une culture de l'obéissance. Alors c'est pas un intellectuel à proprement parler, Louis XIV, il est attiré par la guerre.
Hein, alors, parce mais que... avec une intelligence un peu au-dessous du médiocre, disait Saint-Simon, a toujours la dent dure.
Oui, qui avait la dent très dure hein, pour Louis XIV, et surtout sur la dernière partie de sa vie. Mais on peut dire quand même qu'il avait, par la guerre, le besoin d'affirmer la puissance de la France et puis aussi affirmer la sienne en même temps. C'était quelqu'un qui était, en tant qu'homme, athlétique, courtois, poli, respectueux. Enfin, quelqu'un qui avait
très galant.
Très galant.
On dit qu'il se découvrait devant les simples femmes de ménage lorsqu'il les croisait dans le couloir.
Ça pouvait lui arriver de s'énerver et d'avoir des petites colères. Mais globalement, il était toujours en représentation. Il faut paraître. Alors, il gagne en assurance. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, mais Louis XIV, forcément, qu'il était, il avait une assurance forte. Ben, en fait, le cardinal Mazarin dira que quand il était jeune, il avait des complexes.
Il était timide.
Il était même un peu lent, dit-il, et il ne savait pas gérer ses pulsions. Mazarin dit à Louis XIV, vous devez maîtriser vos passions quand il parle de la petite amourette, enfin petite, pas si petite que ça
avec
d'ailleurs,
Marie Mancini.
Avec Marie Mancini. Alors, ce qu'on peut en tirer comme leçon, c'est qu'il faut savoir, évidemment, surmonter ses difficultés, ses doutes, ses angoisses. Finalement, c'est un gage de force.
Il partira plus tard que d'autres, mais il ira plus loin, disait Mazarin de
absolument,
son fidèle.
C'est ce qu'il disait et répétait, d'ailleurs. Alors, c'est un monarque absolu. Il faut dire que pour se préparer à devenir un roi, c'est un long processus. C'est un long processus d'éducation et de préparation. Il apprend à écouter. Il participe au Conseil des ministres très jeune. Il a 5 ans quand il commence à écouter. Et peu à peu, il devient plus fort, plus courageux, plus clairvoyant. De sa mère, il apprend, la mère qui a régné, qui
Anne
était
d'Autriche.
Fabuleuse, et il apprend l'absolutisme et on peut le dire quand même une forme d'insensibilité. C'est l'État avant
un
toute
détachement,
chose. Un détachement,
cas,
c'est le terme exact.
Je ne sais pas si on peut dire insensibilité, puisque tous les mémorialistes, je pense à Sourche, à Danjot notamment, nous disent constamment qu'il a la larme à l'œil, qu'il pleure, qu'il sanglote. Donc je pense qu'il avait la larme facile. Mais en tout cas, lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions, un peu comme la reine Elisabeth II, il est d'abord le roi.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est sensible, mais quand il est dans sa fonction, c'est l'État avant toute autre chose. De Mazarin, il apprend à devenir un roi. Et quel roi, puisque c'est c'est le roi Soleil. Alors, il sait s'entourer, je reviendrai tout à l'heure dans la conclusion sur, on va dire, l'équipe, en quelque sorte, qu'il avait autour de lui. Hein. Il mise beaucoup sur les arts. Il mise sur les arts pour asseoir sa grandeur.
Alors, mais est-ce que ça n'est pas le legs de Colbert? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure.
C'est un des legs de Colbert, mais il faut dire aussi qu'il était le contemporain, rien que ça, de Molière, Racine, Corneille et d'autres encore. Et il dira, à propos du peuple et du spectacle, nous tenons par le spectacle leurs esprits et leurs cœurs. Donc c'est quelque chose d'assez fort et important pour lui.
C'est ce qu'on appelle le grand siècle. Et tout est grand sous Louis XIV.
Il est l'incarnation du grand siècle.
Voilà, c'est une espèce, il y a une amplitude. On respire à une belle altitude. Tout ce que l'on fabrique est beau. Tout ce que l'on écrit est magnifique. Enfin, il y a quand même dans ce grand siècle, dans cette grandeur, quelque chose d'indépassable d'une certaine manière. Et on doit pouvoir dire que notre époque, qui est tout sauf grande, elle, a du mal peut-être à digérer aujourd'hui cette grandeur. Alors on parlait de Saint-Simon, on a déjà eu l'occasion de le citer un certain nombre de fois. Le petit duc n'arrive à la cour qu'au tout début des années 1690, c'est-à-dire dans la toute fin du règne de Louis XIV, pour les 25 dernières années à Versailles seulement. Hein. Il n'a pas connu le roi de gloire d'une certaine façon, il n'a pas connu le grand vainqueur de la Hollande, il n'a pas connu l'amoureux de Madame de Montespan, mais il en a beaucoup entendu parler. Il a connu celui d'après, il a connu le vieux monsieur, très digne, très extraordinaire, mais tout de même, même si Saint-Simon avait la dent dure contre Louis XIV, parce que Louis XIV avait toujours été assez peu aimable à son égard, lui avait toujours refusé un commandement militaire, l'avait toujours regardé d'un peu haut, il faut bien le dire, néanmoins, il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir une très grande admiration pour lui et de mettre en avant ce qu'on pourrait appeler, après Roland Barthes, le noumen. Qu'est-ce que c'est que ce noumen? C'est-à-dire une sorte de pouvoir contenu et qui n'est pas exprimé. C'est la notion même de puissance d'ailleurs. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir mais vous n'avez pas besoin de le manifester. Il est là, simplement, on le sent, dans votre façon de tourner la tête, dans votre façon de regarder les gens, dans votre façon de poser votre voix. Vous êtes au-dessus, vous êtes le patron, d'une certaine manière, et personne n'en disconviendrait. Je cite Saint-Simon, « Jusqu'au son de sa voix et à l'adresse et à la grâce naturelle et toujours majestueuse de toute sa personne, il se faisait distinguer et le ferait jusqu'à sa mort comme le roi des abeilles. » Le roi des abeilles, il n'a pas osé dire la reine des abeilles, mais c'est un peu ça. Dans cette ruche bourdonnante qu'est Versailles, Louis XIV s'impose comme le roi des abeilles.
Ah oui, moi le mot aussi qui me revient, c'est le rayonnement. On l'a déjà cité plusieurs fois. Avec Louis XIV, on passe finalement du charisme traditionnel au rayonnement. Alors je vais revenir sur le charisme 30 secondes, en faisant revenant sur Max Weber, le sociologue allemand, qui a aussi traité l'autorité. Et il dit, en fait, l'autorité peut se fonder sur des motifs rationnels, hein, par exemple une élection, traditionnelle, la tradition, c'est-à-dire un héritage, effectivement, la royauté, et puis la personnalité et le charisme. Louis XIV, c'est à la fois la tradition et le charisme. Alors généralement, ça aboutit assez vite à des accents très égotiques. Hein. On est dans du narcissisme très rapidement dominant. On va voir qu'on va dépasser le narcissisme avec Louis XIV. C'est un peu inévitable dans son cas, puisque comme tu le disais, la cour vit à travers lui. Il est le centre d'attraction du matin au soir. Toutes les journées sont réglées autour de lui.
Dans du lever entière, on sait ce qu'il fait à l'heure donnée.
À la minute près, oui. Presque. Hein, du matin au coucher, on peut dire, tiens, Louis XIV doit être en train de faire ça,
voilà,
en ce moment.
Exactement.
Alors, on est au-delà du narcissisme. C'est un rayon de soleil, c'est un roi divin, c'est le roi soleil. Et il a... Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il ait un statut de roi? Alors peut-être, mais la réalité c'est que d'autres souverains en Europe, comme tu le citais tout à l'heure, avaient ce statut de roi et n'ont pas eu sa flamboyance quelque part. Hein. Sa devise à Louis XIV c'était « Nec pluribus in par », à nul autre pareil. Donc je cite à nouveau Max Weber, « La domination charismatique est l'autorité fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d'un individu. Et avec lui, nous y sommes totalement. »
Je disais tout à l'heure qu'il y avait une inflexion dans le règne de Louis XIV au milieu des années 1680. C'est la mort de la reine Marie-Thérèse, c'est le mariage secret avec Madame de Maintenon. Très difficile pour Madame de Maintenon d'ailleurs. Elle passe plus ou moins pour la maîtresse du roi alors qu'en fait elle est son épouse. Mais comme elle n'est pas d'assez haute naissance, on n'ose pas l'annoncer officiellement. Voilà, on n'en parle pas. Mais tout le monde à la cour sait très bien à quoi s'en tenir, bien entendu. C'est l'époque de la révocation des dits de Nantes. Et puis, n'oublions pas, 1683, c'est aussi la date de la mort de Colbert. Et là, je pense qu'il faut insister là-dessus. De 1661, c'est-à-dire sa prise de pouvoir personnelle avec le renvoi du surintendant Fouquet, qui va être arrêté à Nantes et qui sera jugé pour être ensuite condamné à perpétuité, envoyé à la forteresse de Pignerol. Donc, entre 1661 et la mort de Colbert en 1683, il y a là 22 années qui ont fait la gloire de Louis XIV. Toutes les grandes institutions que nous connaissons, l'Académie des sciences, toutes les grandes manufactures, tous les fondements financiers, fiscaux, judiciaires de la France, pas tout, mais une grande partie date de cette époque, qui est une époque de refondation, une époque de rationalisation. Aussi, disons-le, parce qu'il n'y a pas que des bons côtés, il y a des ombres au soleil, hein. C'est aussi une époque de grand enfermement, comme disait Michel Foucault, puisque c'est l'époque où on installe partout des hospices et des asiles pour enfermer les pauvres, les fous, les miséreux qu'on ne veut plus voir dans les rues. C'est une période, on va dire, de grand nettoyage. On crée des socles nouveaux pour un État moderne. C'est l'installation de l'État en France tel que l'avait voulu Richelieu et tel que Colbert va le faire. Alors, qui est Colbert? Il était né en 1619, ce fils de marchand drapier de Reims, autant dire un bourgeois parmi les bourgeois, un comptable parmi les comptables, qu'avait repéré Mazarin, et sur son lit de mort, Mazarin dit à Louis XIV, « Sire, vous m'avez beaucoup donné, vous m'avez tout donné, mais je crois m'acquitter néanmoins en vous léguant Colbert. » Il lui laisse celui qu'il a considéré comme le meilleur de ses commis et qui va devenir cet immense ministre. C'est lui qui va développer les arts au service du roi. C'est lui qui va créer l'urbanisme moderne. C'est lui qui va mener cette politique qu'on appelle encore aujourd'hui colbertiste, c'est-à-dire une politique mercantile fondée sur la limitation des importations et la multiplication des exportations, avec une balance des paiements et une balance commerciale qui aurait de quoi faire rêver tous nos ministres actuels, n'est-ce pas, cher Gérald?
Oui, et c'est tout à fait ça, parce qu'on peut dire qu'en fait Mazarin avait présenté au roi Colbert en disant ben vous pourrez lui faire confiance, et ça a été le cas. Et en leadership, la confiance est essentielle. Sartre disait « la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres ». Donc, si on regarde l'étymologie du mot « confiance », c'est...
Confiance, ça c'est intéressant.
C'est un mot important dans le leadership. C'est avoir foi en quelqu'un ou en quelque chose, croire en quelqu'un ou en quelque chose. Un leader est par nature optimiste. Il n'y a pas de leader pessimiste, ça n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire on peut être optimiste en étant réaliste. On peut voir les difficultés, mais un leader va comprendre comment il doit les contourner, en tout cas tout faire pour pouvoir les contourner. Et rien ne peut se faire sans la confiance. Et avec Colbert, Louis XIV a trouvé quelqu'un de confiance. Alors, Colbert, ben, si on analyse un peu son tempérament et son caractère, et finalement son leadership, c'est un hyperactif et totalement boulimique d'action. C'est lui qui a créé l'Académie des sciences, l'Observatoire de Paris, l'Académie royale d'architecture. Il embellit Paris, il fonde les...
beaucoup de grandes villes. Et il crée des routes et des ponts. Enfin bon.
Et il crée aussi les compagnies commerciales et les comptoirs.
Notamment Compagnie des Indes.
Des Indes orientales, occidentales et du Levant. Alors, il peut lui arriver d'être un peu rude et décisif, parfois.
On l'appelait le Grand Nord. C'est Madame de Sévigné qui l'appelait comme ça, parce qu'elle trouvait qu'il ne riait jamais, qu'il était sinistre.
Un peu, oui, c'était un peu sombre par moments. Oui. Mais en tout cas, c'est lui qui va participer en particulier très activement à l'arrestation de Nicolas Fouquet. Et à partir de là, il va prendre beaucoup d'importance, il va devenir très influent. Il va même sombrer à certains moments dans une sorte de népotisme, ce qui est assez paradoxal pour un homme qui avait une éthique irréprochable. Alors, tu as cité tout à l'heure ce qui va de pair avec Colbert, c'est le colbertisme, puisqu'il va mettre en place une politique mercantiliste qui va favoriser le commerce et l'industrie. Il va changer le visage économique de la France à tout jamais, on va dire. souverain quelque part. Hein. Il va créer les fabriques, les monopoles royaux, il va créer les manufactures royales, la manufacture royale et un système de douane dont il est le père fondateur. C'est un serviteur, on appelle ça le leader serviteur, c'est-à-dire il est dans l'abnégation, dans le service aux autres.
Mais un serviteur qui sait aussi se servir, il avait comme blason la couleuvre, c'était l'emblème de sa famille, hein, les Colbert, c'est la couleuvre, et en fait, cette couleuvre, elle a quand même placé ses cousins, ses frères, ses fils, je pense à Torcy, à Croissy, à Seignelay, tous ces ministres qui sont de la famille, c'est un clan Colbert qui arrive au pouvoir et qui s'installe, en quelque sorte.
C'est le népotisme dont je parlais tout à l'heure.
C'est le népotisme, vraiment. Mais ce Colbert, on nous en voudrait peut-être aussi de ne pas citer le code noir, hein, puisque aujourd'hui, les associations qui rappellent l'esclavage ne manquent aucune occasion de stigmatiser Colbert. On a même été jusqu'à défigurer sa statue devant l'Assemblée nationale, ce qui est assez aberrant quand on y songe, mais parce qu'il avait signé ce fameux code noir, qui était un code judiciaire, si l'on peut dire, de punition des esclaves. Il ne faudrait pas oublier que s'il l'avait fait à l'époque, c'était pour lutter contre des peines qui étaient encore bien plus violentes et bien plus anarchiques avant qu'il n'instaure ce code. C'est pas pour défendre le code noir, mais c'est pour défendre en revanche Colbert, qui n'a pas eu de la part de Louis XIV toute la gratitude qu'il aurait été en droit d'espérer. Et l'on sait que Louis XIV a tué son ministre à la tâche et qu'à la fin, quand Colbert est en train de rendre son dernier souffle et que le roi lui envoie un messager, alors qu'il est dans une sorte de semi-disgrâce, Colbert, hein, le roi lui envoie un messager pour lui prendre de ses nouvelles et Colbert lui ferme sa porte et ne veut même pas répondre au roi.
Et il lui dira qu'il me laisse au moins ma mort.
Il m'a pris ma vie qu'il me laisse au moins ma mort.
Absolument.
C'est un personnage à double tranchant, si je puis dire. Ce qu'il a dit oui avec Colbert, c'est qu'à la minute où il meurt, le règne commence à aller mal. Et que, notamment sous l'égide de Louvois, qui est l'homme de la révocation de l'édit de Nantes et de l'incendie du Palatinat notamment, et que Louis XIV renverra d'ailleurs dans des conditions terribles, et dont on se demande même comment et de quoi il est mort réellement, car certains pensent que Louvois a été empoisonné, toujours est-il que avec les successeurs de Colbert, c'est le début de la fin pour Louis XIV. Et ça va être une fin de règne interminable, pleine de noirceur et d'échecs, comme si, en quelque sorte, Colbert avait été son bon génie quand même, non?
On peut parler de l'équipe. On peut parler de cette équipe dont on parlait tout à l'heure, les gens qui l'entouraient, ceux qui l'entouraient, et qui étaient compétents, mais avec des caractères bien trempés. Alors, tu citais tout à l'heure le duc de Saint-Simon, qui n'était pas très tendre, toujours très tendre pour le
grand mémorialiste, qui écrit sous le règne de Louis XV d'ailleurs.
Et ben justement, faisons référence aux mémoires, dans le quatrième livre notamment de l'édition en 7 volumes, hein, très connu. Il disait « Le vieux roi affaibli tomba de plus en plus sous l'influence de Madame de Maintenon, on le sait sur la fin de sa vie, et du duc de Maine. »
Le duc de Maine qui était le fils qu'il avait tué avec Madame de Montespan.
Avec Madame de Montespan.
Et l'enfant chéri de Madame de Maintenon, hein.
Absolument. Et donc, en fait, Louis XIV, aurait pu faire sienne cette phrase d'Isaac Newton. J'ai vu plus loin que les autres parce que je me suis juché sur les épaules de géants.
Et voilà.
Alors, pour lui, ça aurait été Alexandre le Grand. Parce que, comme beaucoup, Alexandre le Grand était un modèle. Il aurait aussi pu dire, j'ai réussi plus que les autres car je me suis entouré des meilleurs. Et les meilleurs, alors, on va pas reparler de Colbert puisqu'on vient de le voir et ça a été certainement le personnage le plus important autour du roi Louis XIV. Mais il y en a eu deux autres au moins. Il y a le fameux Louvois, alors le marquis François-Michel Letellier de Louvois, qu'on appelle Louvois, qui a eu plusieurs fonctions, mais qui était principalement le secrétaire d'État à la guerre.
Brillantissime, mais mal inspiré, si je puis dire.
Alors, oui, parce qu'il a réorganisé l'armée, il a instillé, on va dire, une sorte de comportement éthique.
Un homme violent, faut dire ce qu'il est. Hein.
Et il a été violent. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui va être à la base des persécutions contre les protestants et notamment des dragonnades. Et puis il y a Vauban. Et Vauban, là, c'est l'ingénieur, l'architecte, le militaire, le maréchal de France. C'est lui qui va être à l'origine, finalement, des écrits du siècle des Lumières. Il va être à la base de ce qu'on a appelé la ceinture de fer.
Hein, le précaré,
avec des citadelles et des forteresses pour protéger la France. Et puis, chose incroyable, c'est lui qui va avoir ce document, ce papier, qui s'appelle... un essai qui s'appelle la dîme royale.
C'est l'invention de l'impôt sur le revenu, ça.
Exactement. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était résoudre à la fois les problèmes économiques de la France, parce qu'on sortait de plusieurs épisodes de famine, et puis des injustices sociales, ce qui paraît incroyable. Eh bien, c'était un humaniste, en réalité.
Et si le grand homme du grand siècle était tout simplement Vauban ? C'est bien de conclure sur vos bancs parce que je pense que il est sans doute l'exemple le plus achevé d'un homme parfaitement de son temps. C'est vrai que c'est un ingénieur militaire absolument hors du commun, c'est un très grand architecte, c'est le premier des économistes et fondateur de l'économétrie. C'est par ailleurs un homme très soucieux des questions sociales. Il a tout été Vauban. Il a été le bon génie de Louis XIV. Et l'on pourrait dire, on a dit tout à l'heure que Colbert était celui qui avait porté chance à Louis XIV, mais Vauban est celui qui l'a inscrit d'une certaine façon dans la postérité. Du point de vue du leadership, on pourra dire quand même que Louis XIV aura été le mieux entouré de tous les leaders, non?
Bah c'est une fantastique équipe, d'une certaine façon, hein, si on reprend un terme moderne. Hein. Mais il faut aussi rappeler qu'il a eu des femmes autour de lui qui ont énormément compté.
Aussi, bien sûr.
Alors, la Montespan, comme on dit, hein, qui a joué un rôle colossal. Hein,
mais pas que bon, là. Hein,
pas
c'est le moins
pas
qu'on
toujours
dire.
Que bon, mais en tout cas, elle a eu une influence sur lui. Et puis, Madame de Maintenon, sur la fin de sa vie, il va un peu se racheter une conscience. Hein, il va préparer la fin de sa vie avec elle. Mais elles ont eu un impact, toutes les deux, indiscutable. Et puis, il y a eu autour de lui un ensemble de contemporains fabuleux. On a cité tout à l'heure Molière, Racine, Corneille. On pourrait citer aussi Boileau, Lully, Le Nôtre, Lebrun et d'autres encore.
Et lui-même savait écrire. J'ai eu la chance d'avoir entre les mains le brouillon de la lettre qu'il avait adressée aux Français. Première fois qu'un chef d'État s'adressait directement aux Français par les paroisses et par les sonneurs de ville. Hein. Il s'adressait aux Français en juin 1712 et il dit à la fin de cette lettre extraordinaire « Aussi, quoique mon amitié pour mes peuples ne soit pas moins vive que celle que j'ai pour mes propres enfants, je demeure persuadé qu'ils se seraient opposés eux-mêmes à recevoir la paix à des conditions aussi également contraires à la justice et à l'honneur du nom français. » On pense que même Corneille n'aurait pas fait mieux. Hein.
Il écrit très bien et il y a une lettre qui est absolument incroyable, c'est sur la fin de sa vie justement, qui est décrite par le duc de Saint-Simon, mais qui en fait montre un caractère un peu différent. Hein, et il se préoccupe peut-être davantage du peuple, une sorte de prise de conscience. La France se dégrade à ce moment-là, il y a des petites glaciations, hein, déjà on a des problèmes de climat, déjà, et puis des défaites militaires. Et Louis XIV fait quelque chose d'assez incroyable, il écrit au peuple en demandant leur soutien.
C'est ça, hein, c'est ce dont je parle.
C'est d'une modernité, d'une sorte, c'est très novateur.
Ce que François Bluche appelle l'appel du 12 juin, puisque c'était
Il n'y a pas beaucoup de souverains qui ont fait ça, et en plus, ça fonctionne.
Oui, ça a marché.
Il
y a eu un élan
dans le peuple qui s'est dit, ben oui, il faut apporter le soutien au roi Louis XIV.
Est-ce que ce n'est pas ce qu'on demande aux leaders, après tout? On verra la fois prochaine des leaders vraiment très différents avec Martin Luther King qui lui-même s'inspirait de Gandhi.
Classique.